Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 10 juin 2013 avec, oh quelle chance pour nos auditeurs, une équipe au complet. Jean-Pierre et Michel dans les studios et Robert en duplex. Pour aborder tout d'abord la rubrique internationale, on va peut-être parler d'un sujet dont personne ne parle, mais c'est justement là pour ça qu'on est là. L'Alter Summit à Athènes, Robert.
Oui, ce rassemblement à Athènes qui s'est tenu vendredi et samedi dernier a vu 150 délégations d'associations, de syndicats, mouvements associatifs divers de tous les pays d'Europe. C'était un rassemblement européen à Athènes sur la base, eh bien, non seulement de la dénonciation de l'austérité et des plans de l'ultra et même du libéralisme tout simple qui produit ces plans d'austérité, mais aussi s'organiser, préparer une riposte qui fasse que chacun, chacune ne se sente pas seul face à la crise. On sait très bien que dans les périodes de crise, les gens sont isolés, s'isolent ou on les isole, et que naturellement ça empêche la mobilisation et la riposte. Ça s'est donc terminé samedi soir par un manifeste des peuples qui, comme ça se passe dans ces grandes assemblées, a adopté à la majorité, à main levée par l'assemblée, et qui va servir. Alors c'est un texte de 4-5 pages que l'on pourra se procurer sans doute bientôt sur les différents groupes politiques, syndicaux qui ont participé. On va dire que c'est politiquement c'est à gauche de gauche, mais aussi c'est bien plus que ça. C'est les syndicats en général qui s'opposent à l'ultralibéralisme et qui mettent en avant des alternatives anticapitalistes. Voilà, donc c'était cette occasion aussi de, non pas de préparer, mais ça va s'inscrire, ce rassemblement européen qui va donc se poursuivre par des rencontres à tous les étages, on peut dire, socio-professionnellement parlant, mais à tous les étages aussi sur le plan géographique, et qui va aussi servir à préparer les élections européennes de 2014. Donc c'est pas un mince travail que les 20 pays européens et d'autres, parce qu'il y en avait 20 qui étaient représentés à Athènes, mais il y en aura sans doute plus. Et on a surtout à cette époque, enfin à Athènes, on a un peu rappelé ce que Pierre Bourdieu, c'était au contre Davos de 2001, déclaré dans un discours et surtout un texte de référence qu'il présentait et qui s'appelait le mouvement social européen, et en quelque sorte c'était prémonitoire à ce qui se passe et ce qui va se passer dans les lendemains futurs.
Voilà pour ce premier sujet. Michel, il y avait quelque chose dont tu avais envie de parler présentement.
Ça fait longtemps que je n'ai pas été là, donc je ne sais plus.
Il faut reprendre les bonnes habitudes. Ouais, quel sujet on aborde? L'Iran, peut-être? Les élections présidentielles et municipales iraniennes? Ça t'inspire quelques... on peut faire une introduction en disant quand même que Rafsanjani étant écarté, il reste 9 candidats. Qui sont tous peints de la même couleur, donc on pense que ces élections, si elles ont lieu, même sans être forcément truquées, ce qui est un petit peu aussi l'habitude des dernières, elles vont donner un résultat qui est quasiment connu d'avance, parce que le système a extrêmement bien verrouillé pour préserver la domination des chapelles, si on peut parler de chapelles, en pays islamique en place.
Oui, tu as bien résumé un peu la chose, c'est-à-dire de démocratique, il n'y a que le semblant de non, quoi. Enfin, il n'y a pas de démocratie à proprement parler en Iran, ça on le sait très bien. Et de toute façon, il faut être adoubé par le Conseil suprême, hein, donc par les ayatollahs. Donc il faut être ayatollah compatible pour pouvoir se présenter. Donc ça écarte un grand nombre donc de candidats potentiels et d'autant plus donc d'électeurs. Donc les Iraniens vont un peu résigner dans un contexte où c'est un peu la morosité économique, le pays est en récession. Le contexte géopolitique n'est pas favorable non plus à l'Iran, sans ou avec ce régime qui est en place. Hein. On voit bien que il n'y a pas un grand engouement non plus, et il n'y a pas non plus de la part de ceux qui pourraient effectivement se poser en alternative donc au régime des ayatollahs. Il n'y a pas non plus une grande énergie, une grande croyance en aide extérieure. Enfin, on se méfie de plus en plus. On a vu les révolutions arabes, donc des aides extérieures. En général, ça finit assez mal. Vous voyez la Libye, vous voyez la Syrie. C'est un moment où effectivement où on a l'impression que les Iraniens, bon an mal an, donc un peu résignés, font le dos rond en attendant peut-être des jours meilleurs. À croire que c'est surtout dans les contextes économiques où le pays est en croissance que on a plus de possibilités de voir donc l'émergence donc de courants opposés aux ayatollahs.
Oui, parce que le pays ne manque pas de débat, si on voulait en faire, hein, entre la pression des Américains qui contraignent l'économie iranienne, et il semble que les effets s'en font maintenant sentir assez durement sur l'économie en général et sur la population, entre le soutien apporté à Bachar el-Assad en Syrie, à demi-mot, et pas à demi-arme. Donc tout ça, c'est des sujets qui pourraient effectivement faire débat dans le pays, mais on sent bien que l'équipe au pouvoir verrouille un petit peu sa situation, et si elle est remplacée partiellement, ce sera par des gens du même bord, quoi. Les opposants se plaignent d'ailleurs d'être maltraités. D'ailleurs, il y avait 180 candidats au départ, il en reste 9, et puis il y en a certains qu'on a éliminés d'une manière très arbitraire, quoi.
Bon, c'est le politburo local, hein, donc c'est un semblant de démocratie, on l'a dit. Donc dans ce contexte-là, on voit bien que ceux qui veulent s'opposer donc au régime en place voient bien que le contexte n'est pas propice au niveau régional, au niveau géopolitique. Tu l'as évoqué. Donc les Iraniens sont présents pas seulement diplomatiquement en Syrie, ils le sont aussi parce qu'ils ont envoyé des conseillers militaires, ils ont envoyé des armes, et ils financent Bachar al-Assad et son régime. Et on voit bien que dans ce contexte-là, je pense que les gens ont bien conscience que c'est la répression qui risque de s'abattre sur eux s'ils descendent dans les rues. Enfin, ça, on voit très très mal le régime des ayatollahs donc accepter donc cette propagation donc des printemps arabes, même si eux ne sont pas arabes. À Téhéran ou dans les autres villes iraniennes.
Ouais. Robert, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais simplement signaler que les médias iraniens montent un peu en épingle pour donner l'impression que la vie démocratique n'est pas inexistante chez eux. Les débats qui ont lieu sont plus des débats de méthode sur à propos du nucléaire. Par exemple, il y a le candidat Velayati qui est un ancien responsable d'ailleurs de tout le secteur nucléaire dans des précédents gouvernements, qui dit que actuellement l'Iran doit faire des concessions aux 5 plus 1, c'est-à-dire les pays qui font pression avec les sanctions, plus l'AIEA, tout ce dispositif que les Iraniens ont sur le dos. Velayati dit qu'il faut savoir mieux composer qu'avec lui, que l'actuel responsable, qui est candidat aussi, hein, Velayati est candidat, et Jalili est également candidat, que Jalili, lui, par contre, est trop dur, trop sec, il manque de sens de diplomatie. Donc, on voit plus sur la méthode. Mais en même temps, du coup, Velayati dit, si je dis ça, c'est pas comme ça pour faire plaisir aux Américains, surtout pas, mais c'est parce qu'effectivement, en contrepartie, on doit obtenir un allègement des sanctions contre nous, d'une part, et ensuite, ça nous permettra peut-être aussi de donner un peu de plus de place à nos préoccupations en matière de droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il essayait de lier une sorte de démocratisation formelle de fonctionnement du système à une amélioration de la situation économique qui serait liée donc simplement à savoir mieux manœuvrer à propos du nucléaire. Voilà. Dire aussi qu'on je ne sais pas si on l'a signalé, mais que les femmes n'avaient pas le droit d'être candidates. Hein. C'est réservé qu'aux hommes, hein, la présidence iranienne. Ce qui n'est pas une mince affaire. Oui.
Eh bien, on va parler de la Turquie maintenant, puisque la Turquie nous a fait connaître bientôt depuis une dizaine de jours des manifestations spontanées, assez localisées quand même, mais soutenues, place Taksim, profitant que le chat n'était pas là, les souris dansaient. Le chat a promis que quand il reviendrait, les souris disparaîtraient. Ben non, les souris sont toujours place Taksim, simplement... elles n'ont pas ébranlé la position d'Erdogan qui riposte et qui mobilise ses partisans. D'ailleurs, à la fin de la semaine, il appelle à une grande manifestation de soutien et il prétend qu'il en aura 20 fois plus de partisans que les opposants. Ce qu'on a pu penser être un moment, un mouvement, certains parlaient déjà d'un mai 68 turc, quoi, qui allait emporter toute la société, pourrait bien faire comme un soufflet et retomber dans les jours qui viennent face à cet arc-boutage du pouvoir qui a quand même de quoi s'appuyer sur une partie de la population qu'il soutient.
Oui, dans un contexte, ne l'oublions pas, là on n'est pas en Tunisie, on n'est pas en Égypte, on n'est pas en Syrie. La Turquie est un régime, du moins le mode de fonctionnement est nettement plus démocratique que ce qu'on a connu en Afrique du Nord, ou ne parlons pas de la Syrie. Erdogan est bien... il a été bien élu, quoi. On peut pas contester son élection et d'un point de vue purement économique, on peut pas non plus trop contester son bilan au regard de ce qu'a connu la Turquie dans les années 80, des 90 surtout.
Alors, où était près de la faillite. Que demandent les manifestants?
Eh bien voilà, c'est-à-dire que demandent les manifestants? C'est-à-dire là, on se rend compte que les Turcs, 80 millions de Turcs, il y a une césure qui est très très nette hein, au sein de cette population. Alors là aussi, quand on dit les manifestants au départ, c'était contre l'édification d'un centre commercial sur la place Taksim, ou du moins près de la place Taksim. La place Taksim est le grand lieu donc de manifestation à Istanbul. Sont venus se conglomérer tous ceux qui de près ou de loin avaient quelque chose donc à reprocher à l'AKP, donc au parti à prospérité d'Erdogan, et ceux qui les écolos mais aussi des mouvements gays et lesbiens, des gens effectivement qui ne veulent pas voir la consommation d'alcool restreinte, ce qui est au programme. Mais il y a des gens aussi qui on voit bien que le conservatisme avance de plus en plus, que le voile est de plus en plus présent, surtout dans l'administration, dans un pays qui est laïque depuis Mustafa Kemal Atatürk, qui est une laïcité un peu qu'on a imposée par la force. Donc il y a parmi ces manifestants des gens qui font partie de mouvements donc laïques, mais de droite, pour pas dire fachos. Il y a des gens qui sont de l'extrême gauche, il y a des écolos, il y a de simples gens qui sont libertaires. Donc on voit bien que cette opposition-là n'est pas unie en tant que telle. Il y a aussi beaucoup de Kurdes, mais les Kurdes aussi sont très partagés au moment où ils amorcent un dialogue, du moins où Öcalan, détenu en prison, a accepté que le PKK amorce un dialogue avec Erdogan. Donc c'est la première fois, là aussi c'est à noter. Hein. Jusqu'à présent, le PKK, organisation terroriste, on ne négocie pas avec les terroristes, on les combat, on les extermine. Ce gouvernement, donc conservateur et islamiste, a été le premier à amorcer un dialogue et à reconnaître donc les Kurdes en tant que peuple à part entière, mais plus les appeler les Turcs des montagnes. Donc on voit bien la difficulté un peu d'un président bien élu qui a une réelle base, et d'ailleurs on le dit arrogant, il est arrogant bien entendu, mais dans le même temps c'est la réalité, c'est qu'il va demander à sa population de sortir la semaine prochaine. Officiellement c'est pour commencer un peu les meetings électoraux en vue des élections l'année prochaine, mais de fait c'est pour montrer effectivement aussi la force de tous ses partisans. Et là, au bout de 10-11 jours maintenant de manifestation, on voit bien qu'il y a un blocage dans la société turque, mais ce blocage, on l'a dit, il tient à ça. C'est la chose positive, c'est-à-dire que les Turcs qui prennent goût à la démocratie n'acceptent pas effectivement les semblants d'autoritarisme. Ô combien effectivement le président a été élu et largement élu, on n'accepte pas qu'il décide sans écouter la population, sans écouter le peuple, sans écouter les premiers concernés. Alors ça a commencé par les riverains de ce parc à côté de la place Taksim, hein. Donc voilà, quand on tient pas compte de la population sort, ça fait amalgame et ça continue. Donc c'est relativement intéressant, mais je pense pas qu'on puisse comparer ça au printemps arabe qu'on a connu.
Un mouvement original, donc, dont on peut penser aujourd'hui qu'il renversera pas le régime, quoi.
J'ai du mal à le croire. À moins que, pour finir, juste, n'oublions pas, effectivement, pendant très longtemps, c'est les militaires qui faisaient tout en Turquie, hein, et donc le pouvoir pseudo-démocratique était verrouillé par les militaires. Dès qu'un président, ô combien il était élu, ne plaisait pas, hop, on le dégageait. Depuis l'arrivée donc de l'AKP, on voit bien que on a ramené les militaires dans leurs casernes et que le pouvoir s'est inversé. Il est vraiment aux mains des politiques. Alors, d'un moins, effectivement, d'une collusion entre la rue et les casernes, là, oui, effectivement, la force prendrait...
Ou que l'agitation devienne telle que l'armée estime devoir intervenir.
Tout à fait. Mais pour qui, pourquoi, voilà, tout dépend des généraux en place. Mais en l'état actuel des choses, il est clair que Erdogan a le soutien d'une très grande, j'ose pas dire une majorité, mais du moins d'une majorité relative qui est acquis donc à sa cause et qui défend donc ses avancées.
Allez, enfin, petit voyage en Afrique. Tout d'abord, pour saluer Mandela, qui a 94 ans, est hospitalisé pour la troisième fois depuis décembre. Maintenant, tout le monde attend un petit peu son décès. On n'a plus trop d'illusions. Peut-être qu'il réchappera encore cette fois, mais ses problèmes respiratoires, qu'on impute d'ailleurs à ses 27 ans de prison qu'il a subi au cours de sa vie pour la lutte qu'il menait contre l'apartheid et au fil desquels il a bien entendu récupéré une tuberculose en son temps, lui crée donc ses problèmes qui pourraient bien finir par l'emporter. Hommage donc à Mandela, c'est certainement le personnage le plus digne qu'on a sur la Terre actuellement, enfin le plus digne d'admiration qu'on a sur la Terre. On va sans doute bientôt le perdre. Oui, Robert ?
Oui, non, c'est le mot d'ordre maintenant, c'est pas un mot d'ordre, mais je veux dire, le sentiment qui circule, c'est laissons-le mourir maintenant, laissons-le mourir. C'est-à-dire que vous ne voyez pas que l'acharnement thérapeutique le transforme en plante verte que certains ont déjà un peu décerné dans son comportement. Il n'a plus effectivement les facultés qu'il avait auparavant.
Mmh. Oui, sans vouloir beaucoup d'admiration pour Mandela, mais pour l'instant, il sert vraiment de feuille de vigne à l'ANC, qui, lui, par contre, on peut plus avoir trop d'admiration pour l'ANC de 2013, hein, rien à voir avec le mouvement qui a lutté pour l'apartheid aujourd'hui. Donc, on voit bien que ce sont des petits chefs faillants qui pensent qu'il y a une chose, le pouvoir, l'enrichissement personnel, et qui ont oublié un peu les idéaux donc, qui ont porté ce mouvement.
Allez, Afrique encore, le Mali, où des négociations s'entament entre le pouvoir légitime et puis le MLNA, donc le mouvement Touareg autonomiste, quoi. Tout ça dans la perspective d'une marche forcée aux élections à mi-juillet sous la houlette du président Hollande, qui en fait une affaire quasi personnelle. Alors, c'est pas gagné, parce que le MLNA vit très mal l'intrusion des forces militaires maliennes sur son territoire, et en même temps, le Mali est une république une et indivisible, sans doute. Donc, comment tout cela va-t-il se régler? Est-ce que ce sera par les armes ou par des négociations, des octrois de certaines prérogatives dans les régions contrôlées par le MLNA? On peut imaginer des solutions comme ça qui sont en train de se négocier à l'heure qu'il est. Oui, Robert, tu voulais en dire plus?
Sinon que ce sont les Burkinabés voisins qui tentent avec beaucoup de volonté la médiation, mais que ça ne fonctionne pas très bien. Et puis peut-être rappeler que ce Mali, dans ses frontières actuelles, c'est toujours la résultante des découpages coloniaux, et que naturellement, quand on dit que les frontières intangibles, ça fait rigoler, quoi, parce que je veux dire, ça devrait être une autre manière de parler de ces problèmes de rapport entre les peuples.
Oui, c'est tout. Enfin, on va pas reprendre. On a déjà longuement parlé du Mali, mais c'est tout le problème. Avec la meilleure volonté du monde, le Burkinabé, il se sent plus proche des populations du sud, hein, de Bamako, que de la population touareg du nord, de la région de Kidal. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire aujourd'hui, l'armée du sud qui a été battu mais humilié quelque part, il y a un sentiment de revanchisme, mais dans le même temps, donc les populations du sud, la population du nord n'en veut pas, elle le sent comme une force d'occupation. Et bon an mal an, tu l'as bien dit, hein, c'est parce que notre président veut à tout prix nous faire croire que c'est possible, on va mettre en place donc un plan de paix, donc un accord signé entre toutes parties, donc pour en vue d'élections, mais tout ça c'est du flanc. On voit bien que il suffit que la présence française se retire, que n'y ait plus les moyens pour que de nouveau la situation revienne à ce qu'elle a été avant l'arrivée des islamistes dans la région, à savoir déjà une profonde division entre la population du nord, principalement Touareg, et celle du sud.
Alors, la Syrie maintenant. La Syrie, il y a quelques semaines, quelques mois ici, on pensait que le conflit pourrait finir par un repli de El-Assad sur une zone contrôlée par les Alaouites. Et aujourd'hui, les choses ont évolué puisqu'il semble reprendre la main et qu'il est en passe de peut-être même d'écraser carrément l'opposition, et en même temps, bon, les militaires et les civils qui passent à proximité du même coup, parce que on fait pas trop de détails. Toujours est-il que son armée et son armement, peut-être il a été, et même pas peut-être, il a été équipé d'une manière un peu plus adaptée à ses besoins par les Russes et autres. Donc il reprend la main et il a regagné quelques villes. Alors aujourd'hui, quelle perspective pour ce pays à feu et à sang ?
Oui, alors il reprend, oui, mais est-ce qu'il a la capacité de reprendre vraiment tout le pays ? Le problème démographique reste entier. Hein. La majorité de la population est sunnite. Maintenant qu'on est rentré dans ce qu'on appelle vraiment une guerre civile, hein, il faut dire les choses par leur nom, on a du mal à croire que, de nouveau, les sunnites vont rentrer chez eux comme si de rien n'était. Le mal est fait. Donc l'idée de, sans qu'il y ait pour autant un repli, consolider donc cette région qui irait de la périphérie de Damas jusqu'à Latakia, jusqu'à la mer Méditerranée, donc principalement, on va dire, la région du pays alaouite, mais aussi des villes clés, donc notamment les passages frontières avec les Libans, pour que le Hezbollah, donc les chiites du Hezbollah, ne soient pas coupés de leur allié alaouite en Syrie. Tout ça donc se met en place, mais est-ce qu'il a la capacité de reprendre les deux tiers d'Alep qui sont aux mains des insurgés? On verra, mais j'en doute. Est-ce qu'il a la volonté de reprendre les quelques villes frontalières avec désertiques frontalières avec l'Irak? J'en doute aussi. Enfin, pour l'instant, on est dans une consolidation et il fait le pari surtout de la guerre civile entre différentes factions donc de l'opposition. Et on voit bien déjà que de ce point de vue-là, les choses avancent, hein, c'est-à-dire de plus en plus on nous rapporte, alors qu'on nous le cachait, hein, ces choses existaient, mais aujourd'hui les médias occidentaux nous rapportent de plus en plus de faits donc de gens exécutés sommairement par des islamistes qui prennent le contrôle, qui imposent leur loi dans tel bourg, tel village, et bien souvent des islamistes qui ne sont pas d'origine syrienne. Et donc ça aussi, ça ne fait pas le jeu de l'opposition qui, ne l'oublions pas, l'opposition est basée en Turquie, hein, l'opposition politique, hein, s'entend, hein, à Bachar al-Assad. Donc dans ce contexte, pour l'instant, on est toujours dans le statu quo, même si sur le terrain, les dernières avancées, ce sera plutôt celles des troupes de Bachar al-Assad. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas du tout effondrement du régime, que de ce point de vue-là, il semblerait pas qu'il va y avoir effondrement du régime pour les raisons que tu as aussi invoquées, c'est-à-dire que les Russes ne le permettent pas, de toute évidence. Bon, il y a maintenant une sorte de ligne qui a été tracée par la diplomatie russe, qui avait donné son aval aux Occidentaux pour frapper la Libye. Ils se sont sentis un peu floués et donc ils veulent pas que ça recommence. Et quant aux Iraniens, voilà, ils savent très très bien que si on atteint la Syrie, on atteint le Hezbollah et on les isole totalement. Ils n'ont plus, donc, mis à part les relativement bonnes relations qu'ils ont avec la majorité chiite en Irak, ils n'ont plus vraiment de partenaires privilégiés. Donc, ils ne veulent surtout pas cet isolement-là. Donc, ils participent activement donc à la sauvegarde du régime Bachar al-Assad.
Et pendant ce temps-là, la proposition occidentale de faire une conférence de négociation au mois de juin est déjà reportée, on ne sait plus à quand, peut-être à jamais, ou juillet, ou comme on avait subordonné à la tenue de cette conférence la fourniture éventuelle d'armement. Du coup, ben, c'est le décalage et se fait d'autant. On peut dire qu'on n'y voit pas du tout clair, mais peut-être que les Américains n'ont pas spécialement envie non plus de voir el-Assad renversé.
Voilà, c'est-à-dire c'était un pari. Hein. Les Occidentaux ont fait un pari. Ils ont cru penser que le petit peuple syrien, majoritairement sunnite, allait renverser le régime de Bachar al-Assad. Et que tout ça, finalement, voilà, avec un peu d'aide, ça allait rentrer dans l'ordre. Or, il n'en est rien, et on voit bien, effectivement, qu'il y a une radicalisation donc des katibas, des groupes de combat sur place, et que ceux qui portent les armes au nom de l'opposition ont des valeurs totalement contraires aux valeurs que que prônent les pays occidentaux. D'où effectivement un peu maintenant cette marche arrière. Hein, on renvoie aux calendes grecques les conférences sur la Syrie. On ne sait plus, on a voté l'armement de l'opposition, mais on ne sait pas à qui donner les armes. Enfin, on voit bien, c'est une tergiversation là. Et on attend finalement que sur le terrain les choses évoluent, on verra bien. Quoi, c'est... Le sort en est jeté, on verra ce qu'il adviendra, mais il n'y a pas de toute évidence de ligne nette et claire quant à savoir ce que veulent exactement les Occidentaux actuellement sur le dossier syrien.
Robert, là-dessus, ou sur autre chose?
Simplement, il reste l'échéance présidentielle de l'année prochaine. Il semble bien que Russes et Américains vont tenter de s'y accrocher, de voir comment ça pourrait s'organiser sur des bases démocratiques telles qu'en Occident on les conçoit.
Voilà, un autre sujet, l'heure avance, et on va bientôt arriver au bout de cette rubrique internationale. Tu voulais parler de quelque chose, Robert, la Corée peut-être, non?
Oui, simplement pour signaler qu'il n'y aura pas, enfin du moins, semble-t-il pour l'instant, de nouvelles guerres de Corée. Pour les plus anciens d'entre nous, la guerre de Corée, c'est le début des années 50. Hein. Et donc, on se serre à nouveau la main par-dessus les barbelés entre délégués du Sud et délégués du Nord. Et cette accolade va se préciser dans 2 jours, dès mercredi, par une rencontre interministérielle de membres des deux côtés de la ligne frontière. Et on évoquera surtout la reprise des liens commerciaux qui avaient été rompus il y a quelques mois lorsque, effectivement, il y avait les déclarations guerrières du nouveau jeune président qui, visiblement, aujourd'hui, ayant prouvé qu'il était costaud, il peut dire aujourd'hui, je peux aussi être gentil. Voilà, ça c'est pour la Corée. Peut-être un mot sans trop insister sur l'élection italienne qui s'est achevée dans un certain nombre de villes, c'est des élections partielles, et voilà que Rome est tombée. Alors elle est tombée du bon côté puisqu'elle était du mauvais côté. Rome était du côté de Berlusconi. Et donc, le vote d'hier fait basculer du côté du Parti démocrate avec son candidat, Marino. Alors, c'est pas un gag, Marino, c'est un ancien chirurgien qui a beaucoup travaillé aux États-Unis dans le domaine des greffes.
Alors, les
humoristes vont se faire plaisir avec cette situation politique, qui effectivement mérite d'être soulignée comme quand même un peu plus positive que précédemment. D'autant que ce Marino, il était lui pas d'accord avec la direction du Parti démocrate et notamment l'actuel chef du gouvernement, Enrico Letta, parce que pour lui, il ne semblait pas nécessaire de faire une coalition nationale avec le parti de Berlusconi, parti qu'il a combattu et qu'il combat à Rome et qu'il a vaincu à Rome. Voilà, c'est quand même une nouvelle intéressante. Auquel on opposera une nouvelle qui par contre est beaucoup moins drôle, c'est le durcissement de l'État
du droit d'asile,
de la Confédération suisse, qui à l'égard des demandeurs d'asile va mettre véritablement des barrières draconiennes. Ça a été voté à une très très grande majorité, près de 80% je crois par les Suisses, ce qui montre bien que effectivement les Suisses sont dans un passage d'isolationnisme total.
Ah ben ils sont toujours assis sur leur coffre-fort, hein. Ils n'ont pas envie qu'il y en ait qui viennent les ouvrir. Voilà, Michel, tu avais peut-être les Balkans. Il n'y a rien de nouveau dans les Balkans cet an dernier?
Bon, nouveau, il y a eu bien la conférence entre sous l'égide d'Ashton, donc de l'Union européenne, entre Serbes et Kosovars albanais, entre Hashim Tači et Ivica Dačić, le premier ministre serbe, en vue d'établir des rapports à défaut de reconnaître mutuellement l'un l'autre, et surtout pour les Serbes qui veulent pas entendre parler de reconnaissance du Kosovo, mais c'était une condition sine qua non pour entamer un dialogue de discussion en vue d'adhésion à l'Union européenne. Donc les Serbes acculés un peu le trou noir un peu des Balkans, hein, avec tous leurs voisins qui sont entrés peu ou prou dans l'Union européenne, hein, avec la Croatie qui va y rentrer là en juillet. Se sentent quasiment obligés, donc, pour ne pas mourir économiquement, d'intégrer l'Union européenne. Donc, ils ont donc prêté le flanc. Donc, il y a un débat très large en Serbie entre les conservateurs, et Dieu sait que le parti au pouvoir, le parti radical, est plutôt conservateur, mais il a fait quand même d'énormes concessions et qui en ont étonné plus d'un, à commencer par les popes, hein, par la curée, qui voulait pas entendre parler de près ou de loin d'une reconnaissance même formelle, enfin du Kosovo en tant qu'État, et qui refuse donc ce dialogue qui a été entamé. Mais dans le même temps, on voit bien l'Union européenne qui devrait ce mois-ci donner donc pas seulement son feu vert, mais une date d'entrée, donc une négociation pour en vue d'entrer dans l'Union européenne. Et le gouvernement serbe ne l'a pas, et donc hier le Premier ministre serbe a posé une forme d'ultimatum en disant bon, nous donner un feu vert c'est bien, mais si avant la fin du mois on n'a pas une date de commencement de discussion, tout ce qu'on a eu du mal d'ailleurs à construire à Bruxelles avec la partie albanaise sera caduque. Donc on veut maintenant qu'on a fait des concessions, on veut avoir donc une date pour entamer le début d'une échéance en vue d'intégrer l'Union européenne. Et on voit bien là aussi hein, ce côté un peu focus en ce moment de l'Union européenne qui on a du mal à fonctionner à 27. On commence à en prendre conscience et on veut pas entendre parler effectivement de nouveaux États qui viendraient toquer à la porte. Alors on a effectivement parlé de la Turquie, on l'a retoqué la Turquie sans leur dire de fait, hein, mais on les a retoqués. On est bien conscient que pour la bonne marche des Balkans, surtout après ces guerres hein, dans l'ex-Yougoslavie, il serait de bon ton que toutes les républiques intègrent l'Union européenne pour pas qu'il y ait de différences de traitement entre la Slovénie et la Croatie qui seront les autres. Mais on voit bien que ça pose problème. Alors ne parlons pas effectivement de l'Ukraine aussi qui toque à la porte, la Moldavie. Mais dans le même temps, c'est un peu dans la marge de l'histoire. Faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut intégrer tous les pays de l'Union européenne et faire une Europe digne de ce nom, ou vraiment on va en mettre sur les côtés quoi, et signer des accords voilà, de gré à gré. Donc les choses sont pas très très claires de la part de l'Union européenne, et c'est vrai que bon, on voit bien que les idées européennes ont du plomb dans l'aile, mais il faut comprendre que pour les pays qui décident de rentrer, c'est plus vraiment par idéologie, hein, c'est vraiment par intérêt, parce que ils se meurent de ne plus avoir de rapport économique avec leurs anciens voisins qui ont tous intégré donc l'Union européenne.
Voilà, allez, une courte pause musicale, il est bientôt moins le quart, on va la faire avec un groupe ou une chanteuse qui s'appelle La Femme et qui chante La Femme. C'est des gens qui seront sur scène la semaine prochaine à l'occasion des invites de Villeurbanne du 19 au 22 juin. vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 10 juin, nous abordons la rubrique nationale avec un certain nombre d'informations sociales, politiques, et puis il faut bien redire quelques mots de cet assassinat d'un jeune militant antifasciste la semaine dernière, l'agression mercredi, la mort du jeune Clément Méric jeudi. Et puis, bien sûr, la mise en cause des groupes extrême droite, les jeunesses nationalistes révolutionnaires qui ont été identifiés dans cette agression. L'agresseur serait un certain Esteban, avec des réactions bien sûr très vives au niveau des mobilisations à Paris, à Lyon, à Toulouse. Il y avait déjà eu des manifestations de protestation jeudi, il y en a eu d'autres samedi. Et puis on peut aussi se poser des questions sur la récupération politique des uns et sur le déni de politique des autres, en particulier les gens qui sont proches de ces groupes extrémistes qui, à chaque fois qu'il y a un coup foireux comme ça, ou trop bien réussi, selon le point de vue duquel on se place, font semblant de se désolidariser de leurs meilleurs amis. N'est-ce pas, Robert ?
Oui. On signalera d'ailleurs tout de suite, comme ça, d'entrée, qu'il y a un... je crois que c'est le secrétaire national du parti de gauche, Alexis Corbière, qui a fait une véritable enquête qu'aurait dû faire tout journaliste digne de ce nom, qui se prétend intègre et honnête, à savoir qu'il a rassemblé toute une série de documents avec des photos qui montrent très clairement que les Le Pen, et notamment y compris Marine Le Pen, a eu, et encore très récemment, des contacts avec ce groupe des jeunes révolutionnaires, etc. Il y a des photos, c'est des pièces absolument non contestables. Elles sont dans le dossier, on les trouve sur le site, je pense, soit du parti de gauche, soit directement d'Alexis Corbière. Ce qui se passe, c'est que les journalistes qui continuent d'interpeller le FN, le Front National, sur ces liens avec ce groupe, et puis peut-être d'autres d'ailleurs, eh bien, continuent de dire je ne les connais pas, on ne les connaît pas. Or, que les preuves sont là, que les journalistes les ont, ces preuves, mais ils ne veulent absolument pas les utiliser et se contentent d'entériner les déclarations du Front National sur cette question. C'est un vrai scandale.
Voilà. Michel, tu voulais réagir sur ce sujet ?
Non, ça a été très bien résumé.
C'était un militant de Sud, non ? De Solidaire Sud, non ? Le jeune Clément.
Je ne sais pas si.
Il était bien. À Solidaire, mais je
crois que Solidaire,
mais... Solidaire, c'est pas lié à Sud.
Sud est lié à Solidaire, oui. Sud est lié à Solidaire. Mais je ne sais pas. Mais jeune militant, tout jeune militant.
Tout jeune.
Voilà. Enfin, ce qu'on peut juste rappeler, c'est. Oui, puisque tu insistais sur un peu cette malhonnêteté des médiocrates, hein, en nous présentant donc les choses, et surtout de vouloir nous mettre sur le même pied d'égalité les extrêmes, extrême gauche et extrême droite. Et c'est ne pas oublier effectivement qui sont les uns et les autres. Et à ce que je sache, il n'y a pas beaucoup de militants d'extrême droite qui ont été tués donc par des militants d'extrême gauche, hein. Donc là, il y a rien de nouveau. C'est pas la première fois que l'extrême droite s'en prend très 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 violemment pour faire mal, pour tuer. Et il faut dire les choses comme elles sont, et surtout ne pas mettre ça sur le compte des faits divers. Donc c'est de la politique par d'autres moyens qui, hein, donc c'est vraiment de la violence politique. Du meurtre politique qui a été perpétré, et là aussi on voit bien que les médias ne veulent pas rentrer donc sur ce sujet.
Voilà, autre sujet d'actualité, ben c'est toute l'actualité sociale entre Michelin qui annonce la suppression de 700 emplois à Jouy-les-Tours, une usine qui a déjà été menacée, on avait négocié, on a obtenu un sursis, et puis 10 ans après, on revient et hop, on finit par liquider, alors que Michelin, comme observent les analystes, fait des profits, verse des larges dividendes à ses actionnaires, mais le capital, c'est bien connu, n'en a jamais assez et en réclame toujours plus sur le dos des familles et des travailleurs. Quoi. D'autres sujets sociaux, Robert, tu avais pointé.
On a appris que chez Virgin, c'est fini. Le tribunal a dit, vous pouvez vous inscrire à l'agence Pôle emploi. Je n'ai rien à vous proposer. On peut dire qu'aussi les Spanguéros, on les appelle comme ça maintenant. Hein, effectivement, ils sont pas, même si quelques-uns chez eux au sommet de la pyramide étaient responsables peut-être de cette présence de viande de cheval, il n'empêche que les 250 personnes n'y sont pas pour grand-chose et ce sont tous des emplois et des travailleurs qualifiés. Et donc, ils ont été faire le siège de chez Labéry qui fait des pâtés, on connaît bien tout ça, pâtés de viande et tout ça, pour tenter de faire avancer des dossiers qui pourraient être des dossiers de redémarrage avec d'autres. Ces trois événements aujourd'hui, tu l'as signalé, la Michelin qui va supprimer 500 emplois, enfin il les supprime il en déplace 500, donc une grande partie des gens ne suivront pas parce que échaudés, comme tu l'as expliqué, il y aura quelques dizaines de départs et puis tout ça s'est annoncé alors que le comité central d'entreprise ne se réunit que mercredi. Mais déjà, ça a fuité dans la presse et maintenant les délégués n'ont plus besoin de se rassembler puisque de toute façon tout est déjà consommé, leur assure-t-on. Et pendant ce temps-là, on voit, alors c'est assez extraordinaire que j'ai lu que Benoît Hamon, qui est donc le ministre de l'économie sociale et solidaire, on dit la gauche du PS, des durs de durs, hein, qui aurait voulu vraiment tailler des croupes au capitalisme, eh bien, il est parti à Londres dans vraiment tout ce qu'il y a de Gotha, des systèmes qui est fait du côté des consommateurs. Parce que, comme aux États-Unis, l'économie capitaliste du libre-échange ultralibéral fait que, effectivement, on a créé des structures collectives avec des avocats, avec une justice, avec des juges pour défendre les consommateurs. Et donc, Hamon est allé regarder à Londres comment ça fonctionnait. Il a demandé une carte d'invitation à Cameron et il est allé regarder ça, comment ça se passe. Il y a un grand raout. Ils vont sans doute passer une bonne journée. Voilà un peu la dérive de nos ministres du gouvernement de Hollande qui essayent simplement d'accélérer l'adaptation de la France et en l'occurrence des citoyens et des consommateurs au mode de fonctionnement capitaliste anglo-saxon.
Voilà, peut-être social et politique, un mot d'évocation de Mauroy, donc qui est mort à 84 ans, aussi célèbre aujourd'hui qu'il a été critiqué et vitupéré en 83. On rappellera, maintenant tout le monde le sait un peu, qu'il a été le premier ministre de Mitterrand à l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est une période où la gauche, pendant les 6 premiers mois ou la première année, en profitait pour faire plein de trucs. Du coup, à Mauroy, appliquant la politique de Mitterrand, on doit la mise en place de la liberté des ondes, et ça nous concerne directement Radio Canu, la mise en place de l'ISF, la retraite à 60 ans, les nationalisations, l'abolition de la peine de mort, le remboursement de l'IVG, la dépénalisation de l'homosexualité, les augmentations de 10% du SMIC et ce qui est une mesure, à mon sens, une des rares mesures vraiment sociales de la gauche de l'époque, la plus 20% d'augmentation du minimum vieillesse. Et à l'époque, c'était vraiment important parce qu'il était très bas. Bon, Mauroy a fini par être viré en 84 par les curés sur le thème de l'école libre. Mais disons qu'il avait pas mal travaillé et qu'on aurait aimé que Hollande, dans sa première année, en fasse autant. Quoi. Voilà.
Oui, moi je dirais simplement un mot que j'avais retrouvé dans mes bouquins. Bon, c'est pas une référence en tant que telle, mais c'est pas inintéressant. C'est un bouquin qu'il a écrit à la. Bon, c'est pas une auto-justification. Quand il a été débarqué de Matignon, ça s'appelle À gauche. Un premier ministre parle, Pierre Mauroy. C'était dans la collection chez Albin Michel, la collection Marabout en 1985. Bon, ça n'a qu'une petite utilité historique et puis pas au-delà.
Voilà. Michel, tu voulais peut-être aborder un sujet national, non, que tu avais en tête?
Non. Vous voulez parler des affaires ou...
La conférence sociale qui commence dans 10 jours, les 20-21 juin, t'en attends beaucoup. Avec la réforme des retraites, je crois que c'est principalement ça qui est au menu. Quoi.
Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, à la SNCF, il y a une grève jeudi 13. Une manifestation, d'ailleurs, je pense pas que ce soit seulement la SNCF, mais toute la fonction publique. Qui devrait démarrer à 10h depuis la gare de Lyon-Part-Dieu et elle devrait finir sur la préfecture. Bien sûr, on sait à quelle sauce on va être mangé, c'est-à-dire là, dans ce rallongement donc, de la durée de cotisation, une fois de plus. Et ceci avec une échéance électorale et surtout un calendrier qui commence là où on doit être le plus à même, le plus concerné, à savoir l'été, quoi. On va commencer à en parler, en loose day, alors que la population, les citoyens, seront le moins mobilisés possible.
Oui, puis on sait, en fait, quand on dit allongement de la durée de cotisation, ça veut surtout dire diminution des retraites, puisque
bien entendu.
La plupart des gens ne cotiseront pas tous ces temps, toutes ces années-là, donc partiront avant, usés, fatigués.
C'est le but non avoué, effectivement, de cette réforme, c'est de toute façon de dégoûter les gens et les faire partir avec une retraite à minima, et c'est aussi... d'une autre manière, donc les forcer à capitaliser aussi. Il y en a qui se frottent les mains, notamment les boîtes d'assurance privées.
Voilà, on dira rien de trop des magouilles.
Simplement, j'ajoute une phrase pour dire qu'il y a déjà un premier communiqué d'organisation de retraités. C'est les retraités CGT, FO, FSU et puis Solidaire qui dénoncent le contenu du rapport Yannick Moreau qui, comme tous les rapports, servent au gouvernement à justifier les mauvaises lois qu'il prépare.
Voilà, d'un mot, donc oui, les magouilles de tapis, on aura l'occasion d'y revenir, ça va durer avec la garde à vue pour le moment d'un type qui était quand même le chef de cabinet de la garde en son temps.
De Borloo et puis de la garde.
Hein?
De Borloo et
de Borloo, oui, Borloo est dans le coup.
Hein. Ah bah, c'est lui qui a initié, de fait.
Alors, à savoir si c'est Borloo ou Sarkozy, le vrai responsable de la magouille qui a mis 400 millions pour bourrer les poches de tapis, c'est ce que ce procès devrait nous apprendre si tout va bien. Quoi. On dira aussi que le PS a perdu 2 sièges sur les étrangers, les représentations étrangères. Il y avait 2 sièges, ils ont été invalidés. Et ben les réélections ont donné un UMP et un UDI. La majorité, donc, se rétrécit un petit peu.
Et il y aura directement un représentant israélien au Parlement français. Hein, parce que là, il est carrément c'est le vice-président du CRIF.
Qui a été élu sur la liste UDI. Voilà, on arrive un peu au terme de ce Canu Info. Alors, quelques infos culturelles quand même, enfin culturelles et plus que culturelles. Par exemple, demain soir, à 19h30 à la Maison des Passages, à l'initiative de la Ligue des Droits de l'Homme et de Parlons-en, une réunion débat, donc 19h30 le 11 juin, sur le thème Maurice Audin, en pleine guerre d'Algérie, la disparition de Maurice Audin, prise de conscience politique pour beaucoup, donc réunion débat à cette occasion-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Si vous êtes Aïssong for Freedom, c'est l'ENM en fait qui vous propose ça jeudi et vendredi. Je crois que c'est gratuit. Par contre, il faut réserver site de l'ENM. C'est facile de le retrouver, l'École nationale de musique de Villeurbanne, bien sûr. Et puis, quoi d'autre encore? Eh bien, le Forum Jazz, c'est du 1er au 23 juin, une multitude de manifestations à Francheville. Là aussi, je vous renvoie au site internet Forum Jazz pour avoir tout le détail. Il y aurait beaucoup trop à dire. Voilà, ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez le réécouter sur Internet dès ce soir et je vous propose de rester à l'écoute de Radio Canu.
On s'endort.
Et on s'endort.